Bonjour à tous, je vous propose une immersion dans le monde des mushers, les conducteurs de chiens de traîneau. Pour ce faire, j'ai interviewé l'un d'entre eux, Pierre-Antoine Riquier, 48 ans, vigneron de profession. Domicilié à Savièse, au-dessus de Sion, Pierre-Antoine a participé en 2010 à la Yukon Quest, la course de chiens de traîneau réputée la plus difficile au monde. 1 600 km à parcourir à travers l'Alaska et le Canada. Un défi gigantesque qui lui a demandé 5 ans de préparation avec le même attelage. Je lui ai d'abord demandé quelles sont les caractéristiques principales de la Yukon Quest.
Principalement, la Yukon Quest, c'est une course de 1 600 km. Les caractéristiques, c'est que dans le monde du chien de traîneau, c'est la deuxième plus longue course au monde. C'est une course mythique, c'est une des caractéristiques, parce que chaque musher connaît la course et rêve peut-être un jour ou l'autre de la courir. C'est une course qui est parsemée de 8 checkpoints seulement, donc il y a très peu de ravitaillement sur la piste, et ce qui en fait la difficulté.
Donc qu'on
La
comprenne
place.
bien, entre les checkpoints, vous n'avez pas le droit de vous ravitailler.
Non. Alors, on a un ravitaillement qui est posé sur les checkpoints avant la course par l'organisation. On leur fournit la nourriture dont on a besoin pour la course, qui est posée uniquement dans 8 checkpoints. On doit les relier pour se ravitailler de notre propre nourriture, quoi, si on veut. Et ce qui rend l'opération difficile, c'est que par certains runs entre les deux checkpoints sont longs de plus de 300 km, ce qui est absolument vraiment compliqué, parce que on doit embarquer une énorme quantité de nourriture, et pour nous et pour les chiens, ce qui fait qu'on voyage toujours avec un traîneau très très chargé, ce qui est pas le cas dans les autres courses que je connais, quoi.
Et avec combien de chiens se passe cette course?
Donc la course démarre avec 14 chiens au départ. C'est le maximum, hein. On peut prendre le départ avec seulement 9 chiens, mais on met pas toutes les chances de notre côté. Donc la plupart des tous les attelages au départ ont 14 chiens. Et la règle, c'est de finir avec au minimum 6. Donc on peut poser les chiens dans les checkpoints, les chiens fatigués ou blessés, mais jusqu'à la limite de 6. En dessous de 6, on ne pourra pas finir la course.
En revanche, évidemment, on ne peut pas remplacer des chiens qui seraient
Non,
blessés par d'autres
non.
chiens.
Il y a un pool de 14 chiens qui sont identifiés au départ de la course avec des microchips, et on donne une liste de coureurs à l'organisation, et il n'y a que ces 14-là qui peuvent être sur l'attelage.
Et la course se fait en général pour les premiers en combien de jours?
Le plus rapide, ça a été 9 jours. Mais il y a des éditions où le plus rapide a mis 11 jours. Ça dépend beaucoup des conditions de météo de l'année en cours, les chutes de neige, les tempêtes, ça dépend beaucoup de ça. Mais en général, il faut compter 10 jours.
Et est-ce qu'il y a une assistance possible en cas de traîneau cassé, etc.? Est-ce que vous avez un handler qui peut vous donner un coup de main?
Il y a une régulation bien précise, il y a des juges de course à chaque checkpoint. Et en cas de traîneau cassé, il y a à Dawson, par exemple, à mi-course, on peut en changer. Mais sur les autres checkpoints, on doit demander l'autorisation de réparer ou d'acheter des pièces ou de se faire d'échanger des pièces avec d'autres mushers, mais c'est très réglementé.
Vous l'avez dit tout à l'heure, cette course est réputée la plus difficile à cause de sa longueur. Y a-t-il d'autres raisons encore qui justifient cette réputation?
La distance entre les checkpoints, qui est très très éloignée, quoi, puisque on part des fois pour 2 jours, voire 3, si ça se gâte avec la météo. Il faut envisager toujours 1 fois et demie le temps prévu pour faire le trajet. Ça fait qu'on embarque une fois, moi personnellement, j'en embarque 1 fois et demie la nourriture dont j'ai besoin, donc ça fait toujours très lourd. Et la difficulté est qu'elle se court en début février, et qu'on est quasi sur le cercle polaire à Fairbanks. Donc mi-février, c'est très peu d'heures de jour, et puis c'est aussi très froid.
Et pendant ces 2 ou 3 jours entre les checkpoints, vous dormez quand même dehors ou vous dormez pas du tout?
On a le choix, on embarque, moi personnellement j'embarque du matériel pour dormir dehors. La plupart des gens font du camping, ce qu'ils appellent camper sur la piste, quoi. C'est-à-dire on embarque de la paille pour les chiens, donc on les couche toujours sur de la paille quand on s'arrête. Nous, on dort dans le traîneau, dans un sac de couchage. moins 40, tout ça. Mais c'est jamais. C'est une des difficultés de la course parce que on est quasiment obligé de dormir dehors. Mais pas tout le temps. Au checkpoint, il y a des endroits chauffés. Mais entre les checkpoints, on dort dehors et on perd beaucoup, beaucoup d'énergie à lutter contre le froid sur cette course-là. Ouais.
Votre livre, vous parlez de 5 ans de préparation pour pouvoir faire la Yukon Quest de votre
Ouais.
part. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de toute cette période de préparation?
Je parle de 5 ans de préparation parce qu'effectivement, il faut envisager les courses de sélection qui sont pas simples pour des Européens. Et moi, quand j'ai commencé à réfléchir à la Quest, je montais un team de chiens et il n'était pas du tout destiné à la Quest, quoi. Mais voyant le potentiel du groupe, on a fait des courses toujours plus grandes et on s'est aperçu en progressant avec ces jeunes chiens qu'ils avaient le potentiel peut-être pour y aller à la Quest. Donc, partant de ce constat, on essaye une course de sélection en 2007, qui était quand même une course de 1000 km. Déjà en 2006, on avait fait une 600 km. Et partant du constat que ces jeunes chiens, ils étaient capables de courir ces deux courses, on avait quasi la certitude qu'ils pourraient courir la Quest seulement. On a dû encore consolider tout l'attelage, parce que c'est quand même 14 chiens, et c'est pas que 14 chiens. Dans le team, on avait à peu près 20 chiens à choix avant le départ, quoi.
Combien de personnes vous ont secondé dans ces années de préparation?
Bien, j'ai l'habitude, moi, de travailler seul avec mes chiens, c'est-à-dire j'ai pas jamais de handler à l'entraînement. Seulement sur les courses, de temps en temps, j'ai des handlers qui m'aident parce que c'est quasi obligatoire d'avoir quelqu'un. Après, pour la Quest, c'était autre chose parce qu'il fallait une logistique assez importante vu le transport, vu tout ce qu'il y avait à faire. Plus, il y a énormément de soins à apporter aux chiens avant, pendant, surtout avant la course, quoi. Et là, on a décidé de constituer un team, une équipe pour gérer et la logistique et le transport et la course et tout ça, quoi. Et là, on était 6 personnes, quoi.
Vous êtes le premier, semble-t-il, à avoir fait l'aller-retour avec des chiens pour cette course de la Yukon Quest depuis un autre continent. Comment est-ce que ça s'est passé avec l'avion, etc.?
C'est très compliqué à faire voyager des chiens, surtout que j'avais envisagé plein de solutions, y compris le bateau. Ça aurait été beaucoup moins cher, mais on a exploré plein de pistes. Le bateau, c'était pas génial, et l'avion non plus, parce que on n'avait pas vraiment de possibilité de voler depuis la Suisse. Avant 2010, il aurait fallu aller voler de Paris ou de Francfort ou de Madrid, on ne sait pas, pour avoir un vol direct sur le Canada. Et on a eu énormément de chance. En 2010, Air Canada a ouvert une ligne directe Genève-Montréal, ce qui a fait qu'on a pris contact avec eux, avec un transitaire, bien sûr, c'est très compliqué, et c'est le transitaire à Genève qui a organisé le fret, mais en fait, ce n'était pas du fret, puisqu'on a voyagé les 18 chiens dans un vol de ligne, où les chiens étaient dans la soute bagage, quoi. C'était une soute chauffée, bien sûr. Habituellement, sur des vols de ligne, ils embarquent seulement 2 chiens par vol. Et là, on a obtenu que 18 chiens puissent voler sur ce vol-là. Donc, on a opéré un vol de Genève à Montréal, Montréal-Toronto et encore un Toronto-Vancouver. Donc c'était pas simple. Mais les chiens ont une grosse habitude de voyager soit en voiture et tout ça. Ça n'a pas posé de problème pour les chiens. C'était très compliqué à obtenir les autorisations pour voler en vol de ligne, en fait. La suite, c'était plus compliqué parce qu'on a encore dû louer un camion de déménagement pour mettre tous les chiens dedans et faire Vancouver Fairbanks, qui est quasi 3 500 km par la route. Donc c'est un long chemin depuis Savièse jusqu'à Fairbanks. Mais on l'a fait, et forcément on avait une grosse motivation parce qu'on savait on était qualifié pour la Quest. On avait l'honneur de pouvoir prendre le départ. Donc.
Vous avez donc participé à cette course en 2010. Quels ont été, d'après vous, les points forts de votre course?
Sur cette course, c'est la plus longue que j'ai faite, quoi. Jamais j'avais fait 1 600 km avant. C'est la seule course de ma vie, j'ai préparé comme un professionnel, quoi. Donc ça a été beaucoup plus facile parce que j'ai pu m'occuper des chiens pendant 3 mois, tous les jours, et j'étais très proche d'eux, et on a vécu ensemble. Et ça, à la fin de 3 mois, ben, ça soude un peu et on devient vraiment une équipe. Mais la préparation était primordiale. Du fait d'une grosse préparation, les chiens ont vraiment bien fonctionné sur la course. C'était vraiment positif. On n'a pas eu de chiens blessés. On a fini avec 11 chiens, mais les 3 autres auraient pu terminer si j'avais voulu, quoi. Mais je les ai sortis volontairement parce que j'estimais que c'était mieux. Mais ça, c'était un gros plus, parce que avoir des chiens qui travaillent bien, qui sont frais, qui font ça facilement, c'est beaucoup plus agréable que si on a des chiens fatigués, qu'il faut motiver et que tout se passe mal. Vraiment, la course était vraiment positive. En plus, les chiens se sont super bien comportés pendant les 3 quarts de la course. Ils ont couru à des bonnes vitesses, on n'était pas ridicule, ce qui, des fois, moi, j'étais parti pour être dernier depuis le premier jour jusqu'à l'arrivée, donc j'étais cadré comme ça, mais en fait, on a fait beaucoup mieux que les prévisions, et puis c'était vraiment top. Au niveau des choses négatives, ben, pour moi, il n'y a pas grand-chose, parce que la seule chose que je voulais, c'était terminer cette course, et j'avais vraiment aucune vue sur une place meilleure que la dernière, je m'en foutais.
Il y a quand même eu des moments très difficiles de doute où vous avez pensé à abandonner.
Pas une seconde où j'ai pensé abandonner, ça c'est sûr. J'étais pas là pour abandonner. Et quand on part pour une course comme ça, il faut vraiment avoir ce genre d'idée dans la tête. Parce que le moindre problème
Oui,
négatif
oui,
dans la
oui.
tête, ça peut, avec la fatigue, ça peut partir en vrille et ça peut vraiment vous déstabiliser à chaque seconde de la course. Et ça, avec l'expérience que j'avais en course de mes chiens les années précédentes, je les connaissais très bien, ces points négatifs. Je connaissais les miens, je connaissais ceux des chiens. Ce qui fait que j'ai pu juguler pas mal de problèmes. Et bien sûr, sur la course, il arrivait plein, plein, plein de petites histoires qui auraient pu tourner à la catastrophe, quoi. Mais c'est ce qui était primordial, c'était de partir au départ avec l'idée d'aller au bout et de surtout être capable pendant la course, même avec les états de fatigue, de gérer les problèmes, quoi. Ce qui n'est pas évident parce qu'après 2 jours, on ne sait déjà plus comment on s'appelle. On fait un roadbook avant la course avec qu'est-ce qu'on fait à telle heure et qu'est-ce qu'on donne à manger aux chiens. Et sur tous les sacs de nourriture, il est écrit ce que le sac contient pour qu'on ne se trompe pas.
Dans votre livre, vous parlez par exemple d'un couteau que vous avez perdu pendant la course.
Ça a posé d'énormes problèmes parce qu'il y a beaucoup de choses à couper, c'est-à-dire la nourriture des chiens est emballée, congelée, et il faut la déballer avec un couteau. Avec un couteau, c'est bien plus simple. Et là, on n'avait plus de couteau, donc il fallait utiliser. J'ai utilisé un ciseau qu'il y avait dans ma trousse de secours pendant quasi la moitié de la course. C'était un casse-tête de le faire, mais il n'y avait pas le moyen de faire autrement. Donc, c'est toutes des choses comme ça qu'il faut absolument arriver à faire face.
Vous avez participé à des courses de longueur variable. Comment faites-vous pour que les chiens dosent correctement leur effort, pour leur faire comprendre que la course est courte ou au contraire de longue durée?
C'est très difficile. Sur des courses longue durée, on entraîne les chiens à courir à une certaine allure pendant un certain temps. Les chiens c'est des métronomes. Alors, si on les entraîne pendant 4 heures, à 3 h 30, ils savent très bien qu'il leur reste une demi-heure de course.
Si
Alors,
j'entends bien, pendant les semaines qui précèdent, vous les habituez à avoir le même rythme que la course elle-même.
pendant les 4 mois,
D'accord.
on les entraîne à avoir toujours le même rythme, si on veut, mais par contre, on les entraîne à parcourir des distances différentes, quoi. On ne peut pas, sur des courses comme ça, avoir des allures trop rapides parce que ça blesse les chiens. Et si on est trop lent, ben, on perd du temps, quoi. Donc on essaye de se baser sur une vitesse qu'on obtient, mais qui est différente avec chaque chien, avec chaque team. Donc l'essentiel, c'est à l'entraînement en chronomètre, on prend un GPS, de connaître les vitesses, les allures. Et puis sur la course, on répète l'entraînement. Mais à l'entraînement, on est beaucoup plus dur que sur la course. Sur la course, les chiens vont arriver, ils vont trouver une chose plus facile qu'à l'entraînement. Donc on force à l'entraînement pour que, ben, c'est comme pour chaque athlète. Mais ici, la particularité, c'est que Parfois, on court 4 marathons dans la journée. Donc, jusqu'à 160 km dans les premiers jours de course, c'est quasi le rythme. Les premiers 24 heures, on fait quasi 200 km. Et après, on baisse, quoi. Mais les chiens sont capables de faire 4 marathons par jour. Et pour ça, ils ont un entraînement qui les rend capables de le faire, ça c'est sûr, quoi. Mais après, non seulement il faut être capable de le faire pendant 2 jours, mais pendant 10 jours. Donc tout ça se fait à l'entraînement. Bien sûr, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a à peu près, maintenant, on pense qu'il y a à peu près que le chien qui est capable de faire ce genre de performance, 4 marathons par jour pendant 10 jours, quoi. Et sur ces courses-là, avec des attelages de jeunes chiens, c'est encore plus performant que ça, quoi. Moi, j'y suis allé avec mes chiens qui étaient plus ou moins âgés, donc je devais plus ou moins régler la vitesse sur les plus vieux et tout ça. Donc j'étais plutôt 150 km par jour, mais les premiers sont quasi à 200 km par jour pendant 9 jours, quoi.
Vous dites également dans le livre qu'après chaque course, vous avez tendance à dire plus jamais, et apparemment vous recommencez. Pourquoi?
C'est vrai que les courses sont très dures, c'est éprouvant. Vous connaissez l'histoire du gars qui dit bah, ça fait tellement du bien quand ça s'arrête, quoi. Franchement, c'est peut-être un peu ça. C'est des courses très dures, mais on vit des moments exceptionnels. Et puis, c'est peut-être certainement pour ça qu'on cherche à y retourner, quoi.
Comment au départ est née votre passion pour les chiens de traîneau?
Donc, j'avais pas de chien, j'ai toujours eu des chiens à la maison. Et puis, à un moment donné, comme beaucoup de gens, j'ai acheté un chien parce qu'il avait les yeux bleus. Et puis, j'ai toujours été très compétitif. Donc, j'ai commencé à faire de la course avec deux chiens. Puis après, ça s'est jamais arrêté, quoi. J'ai toujours fait des côtes, des compétitions avec 6, pendant 4, 6 chiens. Et après, je suis passé à 10. Et après, maintenant, voilà, ça nous a amené à la Quest, quoi.
Et par rapport à votre famille, cette passion implique beaucoup de voyages. Est-ce que ça a été parfois difficile?
Bien sûr, pendant plein d'années, j'ai 3 enfants et on a concilié la vie de famille avec ces compétitions qui, pendant plein d'années, j'ai fait des compétitions de week-end, quoi. C'est-à-dire, alors, on partait en famille, on allait un peu dans toute la Suisse, en Suisse allemande, partout, pour faire des courses de 2 jours. Donc c'était assez gérable puisqu'on a emmené les enfants avec nous. On passait le week-end pas uniquement à faire du traîneau parce que les courses étaient assez courtes. Des fois, on faisait du ski et des choses comme ça. Donc, les enfants petits, ils ont toujours suivi. C'était notre vie de famille à un moment, quoi. Ensuite, les enfants grandissant, bah, ils ont plus trop suivi. Et puis, moi, je suis parti un peu sur des courses qui étaient plus grandes et ils ont pas toujours suivi, mais ce qui fait que eux avaient leur vie sociale avec dans des sociétés locales et des trucs comme ça. Puis moi j'avais la mienne, mais on est toujours resté une famille, quoi.
Et est-ce que vous conseilleriez à vos enfants de suivre cette passion du machine?
Oh non. Ben non, enfin, mes enfants ont fait un peu de course de chiens comme ça pour s'amuser parce que ça les amusait quand ils étaient petits, mais maintenant, non. Si un jour ils me suivent, des fois ils viennent en Suède avec moi pour entraîner ou faire des choses comme ça, des vacances en famille, ils ont encore du plaisir à le faire, mais pas pour les courses. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'engagement, d'argent et de temps à mettre à disposition, et maintenant. N'a pas forcément ce temps.
Vous êtes vigneron de profession, comment est-ce que vous conciliez votre métier et votre profession?
Bien, j'ai toujours concilié ça assez facilement puisque les courses et les compétitions étaient en hiver, quoi. Et le moment où on a beaucoup moins de travail à la vigne, et puis le reste de l'année, j'ai une exploitation et que je gère. Puisque j'ai moins d'occupation avec mon sport pendant l'été, quoi.
De manière générale, quelle est la fréquence des entraînements?
Bien, pour des petites courses, ça peut être de 2, 3 séances de 1 heure par semaine. Et puis pour des grosses courses comme ça, je dois avouer que pour la Quest, l'année de la Quest est quasi du professionnalisme. Il fallait faire que ça pendant 3-4 mois pour bien préparer les chiens, quoi.
Vous avez donc un chenil près de chez vous à Savièse.
Mmh.
Combien de chiens compte-t-il?
Bah, ça dépend des années, parce que en fait, par exemple, pour la Quest, j'avais quasi 20 chiens. À un moment donné, dans le chenil, j'avais plus que 12 chiens. Ça dépend. Et aussi, moi, je suis éleveur, alors je vends des chiens. surtout dans le milieu de la compétition, ben, il y a des gens qui viennent des fois de France, d'Allemagne pour acheter des chiens.
Vos chiens sont de quelle race? Quelles sont leurs caractéristiques?
Donc, je cours avec des Husky Sibérie pure race. Ce sont des chiens qui sont assez rustiques dans le monde du chien de traîneau. Mais actuellement, ben, le 80% des gens courent avec des chiens croisés, qui sont des chiens prévus pour la course. Et comme ils ont été croisés pour ça, c'est des chiens qui sont moins rustiques, un peu peut-être plus fragiles de la tête, plus fragiles aussi au niveau du physique. Ça mange beaucoup plus. Donc, il y a quelques avantages que moi je préfère dans le sibérien. C'est que c'est un chien qui supporte les grands froids, qui est capable de faire de la course longue distance, de la course courte distance. C'est un chien qui a un large spectre d'utilisation, je dirais.
Comment est-ce que vous sentez si votre chien est en forme ou non? Je veux dire, pendant la course, parmi 14 chiens, est-ce qu'on sent toujours quand un
Ouais,
chien est moins en forme, etc.?
bien sûr, un chien, ça, moi je les vois courir à l'entraînement, je connais leur démarche, leurs habitudes, et j'arrive à cerner, bien sûr, chaque chien de l'attelage, j'arrive à déceler, pas toujours, hein, mais la plupart du temps, on arrive à déceler quand un chien a une faiblesse ou quand il a des problèmes de pattes ou des trucs comme ça. C'est des choses qu'on voit parce que c'est visuel. Et puis des fois aussi, ben, comme des athlètes malades, on les sent au moral, quoi. On voit dans leurs yeux que il y a de la fatigue, il y a du souci ou des choses comme ça. Mais ça fait tellement d'années qu'on travaille ensemble, qu'avec les mêmes chiens, c'est que quand j'ai fait la Quest, je les connaissais tous, quoi. Et je pense c'est primordial pour attaquer enfin, une course comme la Quest, c'est de connaître bien les athlètes, d'avoir confiance, connaître leurs limites et savoir s'arrêter quand on voit qu'on va dépasser les limites. J'ai écrit dans le livre que une des grosses choses, des gros éléments qui fait que qu'on réussit cette course, c'est que on connaît ses limites, on connaît les limites des chiens. Et on les respecte, on va pas au-delà ni des limites du musher ni des chiens. Et si on dépasse les limites, quelles qu'elles soient, on va dans le mur. Et ça, je pense que c'était une des recettes qui a fait qu'on est allé au bout, quoi.
Comment est-ce que vous déterminez la place de chaque chien dans l'attelage?
Alors, depuis tout petit, on entraîne les chiens et on voit leur caractère. Il y a des chiens qui sont là pour travailler, si on leur demande de travailler tout le temps et de suivre les autres, ils le font, c'est la plupart des chiens. Et puis ensuite, ben, il y a les leaders on a besoin de chiens qui mènent l'attelage, c'est-à-dire qui donnent le rythme à l'avant. Et ça, c'est des chiens qui, un, sont rapides, deux, supportent les contraintes liées à la pression. Parce que pour faire avancer, on les motive, on leur demande des allures, on leur demande d'accélérer, on leur demande beaucoup de choses. Mais
Et qu'est-ce qui se passerait s'il y en a un qui vraiment va trop vite pour les autres?
On doit toujours, dans un attelage même de 14 chiens, on doit se régler sur la vitesse du plus faible, malheureusement. Donc on freine et on va régler notre vitesse par rapport au chien qui est le moins en forme. Donc, du coup, il y a intérêt à que même le moins bon soit performant, quoi. Il faut les mettre tous sur la même longueur d'onde pour que tous les 14 aient le même physique, la même force. Et ça, c'est très compliqué parce que forcément, ils n'ont pas tous les mêmes capacités, les mêmes aptitudes, mais il faut faire avec. Et dans un team comme le mien, ben, il n'y avait que 14 ou 18 chiens. C'est un très petit team à régler. Par contre, certains attelages qui gagnent, c'est 60 chiens au départ à l'entraînement. Et on va sélectionner les 14 meilleurs. Donc avec les 14 tops de 60, on va être beaucoup plus performant, bien sûr, que dans les 14 meilleurs de 18. Ça, c'est évident, quoi. Donc d'où la difficulté aussi de cette course. C'est de faire cette course avec un petit nombre de chiens. C'est juste... Je dirais pas infaisable puisque je l'ai fait, mais c'est vraiment compliqué.
Il y a quand même des mots qui peuvent leur faire comprendre qu'ils doivent aller plus vite, moins vite, donc des mots conventionnels ou pas du tout.
Tout l'art du truc, c'est de leur demander d'aller plus vite uniquement quand ils peuvent aller plus vite. Donc c'est très compliqué, quoi. Si à un moment donné vous faites une grosse montée et que vous leur demandez d'aller plus vite, c'est stupide, ils vont pas le faire. C'est à vous de réfléchir et de dire, ouais, bon, maintenant, on peut bien leur demander d'aller plus vite, mais s'ils vont pas le faire, s'ils peuvent pas le faire, donc il faut pas le faire.
Et quelle est, de manière générale, la proportion de mâles et de femelles de chaque attelage? Est-ce que ça a une importance?
Ça n'a pas grande importance. Moi, personnellement, je travaille beaucoup avec des mâles parce que j'ai plus de feeling avec les mâles. Mais il y a des gens qui travaillent complètement avec des femelles ou alors avec un mélange de femelles. Il n'y a pas de règle. Ça peut être. Chez moi, c'est du 95% de mâles. Et puis, dans d'autres attelages, ça peut être du 95% de femelles. C'est absolument libre.
Et en moyenne, les femelles ont autant de force que les mâles.
Bien. Si on veut, les Sibériens que j'utilise, ben les femelles sont forcément plus petites. Donc ça a moins de force. Mais c'est aussi peut-être plus rapide et plus endurant parce que c'est plus petit. Mais dans les attelages d'Alaskan, par exemple, les femelles peuvent être plus grandes que les mâles. Ça peut avoir plus de force qu'un mâle, quoi. C'est clair. Et par contre, ce n'est pas le cas chez les Sibériens.
Est-ce qu'il y a parfois des conflits entre chiens et comment est-ce que vous gérez cela?
Alors bien sûr, il y a des conflits entre chiens. Mais à ce niveau-là, on essaye d'éviter parce que tout ce qui est. C'est un truc complètement négatif pour le groupe, l'agressivité et tout ça. Donc on essaye de bien gérer cette partie-là déjà dans le chenil, d'avoir des chiens qui s'entendent bien, ou alors on les laisse. On sépare on connaît les éléments qui peuvent pas. Qui interfèrent et qui ne peuvent pas travailler ensemble, et on les sépare, et on les sépare aussi à l'attelage. Mais si on a un team qui s'entend bien et qui n'a pas d'agressivité, c'est beaucoup, beaucoup mieux que si on a dans le team. Des fois, il y a des chiens que je n'ai pas pris sur des courses parce que je sais très bien que ça va semer la zizanie et c'est vraiment négatif pour la performance. Dans ce cas-là, c'est primordial d'avoir des chiens qui vont ne penser qu'à une chose, à travailler, quoi, et pas à se battre avec d'autres chiens ou alors à être stressé par un problème de hiérarchie.
Est-ce qu'il y a des problèmes de jalousie entre eux pour une femelle
Non,
ou autre?
c'est uniquement un problème de hiérarchie et de, bien sûr, les problèmes de mâles et femelles, c'est inévitable. Si on a beaucoup de femelles avec des chaleurs, par exemple, pendant la course, ça devient rapidement ingérable. C'est pour ça que moi, j'évite le problème en ayant très peu dans mes attelages, ce genre de problème, quoi.
Est-ce qu'on peut vous demander quel est le budget total pour faire la quest?
Ben, le budget total, je dirais, le gros budget, c'était le transport des chiens qui a coûté énormément cher. C'était une fortune, on a payé ça 30 000 francs suisses. Mais j'ai eu la chance d'avoir des sponsors qui ont payé l'ensemble du transport. Les sponsors ont payé le vol pour un chien, ce qui était l'équivalent de 1 600 francs. Et puis, on a couvert les frais d'avion. Puis après, les frais de la course, forcément, ça c'est autour des, ouais, je dirais, 20 000 francs, quoi. La saison d'entraînement, plus la course en elle-même, plus les frais annexes, quoi. Donc c'est pas la course qui est plus chère. En vivant sur place, la course n'est pas excessivement chère. C'est vraiment la course plus le transport qui a fait que c'était un gros budget, ouais.
Et comment faites-vous pour financer toutes ces courses, les sponsors?
La Quest et quelques grosses courses, là, c'était des sponsors. Et puis, le reste du temps, je sponsorise moi-même ma passion, quoi.
Est-ce qu'il vous arrivait de faire des promenades pour touristes en chien
J'ai
traîneau?
fait ça pendant pas mal d'années, dans les années 2000, 95 jusqu'à 2000. J'ai fait ça beaucoup parce que, à un moment donné, ça m'amusait de faire ça. Mais ensuite, le problème, c'est que on peut pas vraiment entraîner des chiens et faire ça, promener touristes et organiser des balades parce que c'est pas le même sport quoi. Et si on veut avoir des chiens performants sur des courses, on ne peut pas faire les deux. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter de le faire. Mais c'est pas dit qu'un jour je recommence pas.
Vous avez effectué la Yukon Quest, qui est, comme vous le dites dans votre livre, l'Everest des courses de chiens de traîneau. Quels sont vos prochains objectifs?
Bien, après la quest, tout le monde me pose cette question, c'est quoi les objectifs? Et là, forcément, ben, en 2010, j'avais un team de chiens qui était vraiment performant et qui était capable de faire cette course, mais les chiens les plus âgés avaient déjà 9 ans, quoi. Donc, les chiens à 8-9 ans, ben, ils sont en crescendo pour ce qui est de la forme. Et puis, à 10
Ils sont
ans,
déjà un petit peu sur le déclin
ouais,
maintenant.
à 10 ans, c'est des chiens que, honnêtement, il faut mettre à la retraite parce qu'ils sont capables encore de courir, mais ils ont fait un temps. Et voilà. Donc maintenant, actuellement, depuis 2010, ben, j'occupe mon temps à mettre mes chiens à la retraite et de les occuper jusqu'à l'âge de 10-12 ans encore. Et maintenant, dans le même temps, j'élève des jeunes chiens pour le futur. Mais actuellement, je ne sais pas de quoi le futur est fait parce que je connais pas encore les athlètes et leurs capacités. Donc c'est un sport qui est assez intéressant parce qu'on peut être actif pendant un moment, mais ça dépend ça va dépendre du team de chiens que j'aurai dans une année ou deux, quoi. Mais là, actuellement, je fais des plus petites courses avec les chiens qui courent encore et je prends du temps pour ces chiens-là parce qu'ils ont tellement donné pour moi que j'estime que c'est très important de les choyer, de les amener dans une retraite où ils soient bien, quoi.
Un grand merci à Pierre-Antoine Héritier pour cette interview. En guise de dessert, quelques lignes de son livre intitulé Musher aux éditions de la Matz. Dans ce passage, il décrit ses impressions sitôt la ligne d'arrivée de la Yukon Quest franchie. Je vis l'instant, déguste chaque seconde. C'est sans doute un instant plus que magique et dont je me souviendrai à jamais. Comme le jour du départ, les officiels et quelques personnes présentes me parlent. Mais je n'entends que mes chiens, je les vois clairement alors que tout le reste est trouble et inaudible. Je n'ai plus de larmes, elles sont toutes restées sur le trail. Je m'éternise dans l'air d'arrivée, car la quitter marquera pour moi la fin de cette fantastique aventure. De nombreuses personnes, dans mes handlers, arrivent après que l'on soit passé sous la banderole, car on nous attendait plus tard. C'était sans compter sur les ressources que le team tout entier était allé chercher au plus profond de lui. Je nourris les chiens dont l'appétit vorace est remarqué par le public, puis vient le moment de féliciter chaque chien, comme à la fin d'un match de football où chaque joueur se serre la main. C'est un moment terrible parce que j'ai eu des différends avec chacun, à un moment ou à un autre durant ces 12 jours. J'ai été imbuvable et sans doute très injuste. Je les prends l'un après l'autre, je règle avec chacun les contentieux. C'est une sorte de mea culpa où l'entraîneur s'excuse et demande pardon pour ses erreurs. L'opération est douloureuse pour celui qui avoue ses défauts et ses erreurs. Pour les joueurs qui l'ont amené à la fin d'un match perdu avec la manière, c'est en revanche très gratifiant. Après cette séance pleine d'émotions, tous remuent la queue, les problèmes sont réglés. Voilà, vous pouvez enlever vos bonnets et vos gants, nous arrivons au terme de notre balade dans le Grand Nord. Pour de plus amples renseignements sur Pierre Alain, vous pouvez consulter son site internet dont voici l'adresse Team Héritier, en un mot TEAMHERITIER.com. À bientôt, merci.